France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Les mots d'Emmanuel Macron vont entrer dans l'histoire ce soir. La France reconnaît l'État de Palestine, mais après, est-ce que ces mots peuvent sortir du symbole? C'est à Eli Barnavi que nous posons cette question, ancien ambassadeur d'Israël en France, historien, depuis toujours partisan de la solution à deux États. La France qui a dû faire face à de nombreuses critiques, et c'est pas fini, les réseaux sociaux font ça très bien. Comment justement la diplomatie française s'est préparée à répondre au backbuzz? C'est le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Le reportage est en Ukraine, où malgré la guerre, il y a toujours des demandes de mères porteuses.
Ils sont malheureux de ne pas pouvoir faire d'enfants, mais ils ont des moyens. La plupart des femmes qui viennent ici font ça pour acheter un logement ou aider leurs enfants. C'est gagnant-gagnant.
Étonnant reportage de Simon Le Baron, Yachar Fazilov et de Gilles Gallinaro. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé la plus grande cantatrice russe qui appelle à la fin de la guerre. Et Cyril Sauvageau nous ramène à notre conversation de départ avec les grosses pointures de la musique anglo-saxonne qui prennent position sur la Palestine. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
We are at a very moment where if we want peace and security for all in the region, we have to preserve the condition of a political perspective for everybody.
Et c'est Emmanuel Macron, bien sûr, sur CBS, c'était hier, et il dit ceci: si nous voulons la paix et la sécurité pour tout le monde dans la région, il faut préserver les conditions d'une perspective politique pour tout le monde. Reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui est le seul moyen d'apporter une solution politique à une situation qui doit cesser. Fermez donc les guillemets. Bonsoir Eli Barnavi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes essayiste, vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris entre 2000 et 2002. Vous êtes un infatigable défenseur, je le disais, de la solution à deux États. Vous avez aussi eu des mots très durs il y a quelques mois, et c'était chez nous, sur France Inter. Vous aviez dit avoir honte de votre pays en l'état de cette guerre à Gaza. Et vous avez toujours dit également que c'est une position collective de l'Europe, faute des États-Unis, qu'il faudrait avoir. Ne jamais sous-estimer la puissance d'un symbole, Eli Barnavi. Mais Emmanuel Macron, même s'il a emmené du monde derrière lui, il n'y a pas de pression d'ensemble. À votre avis, parce que c'est la France, est-ce que ce geste, quand même, peut sortir du pur symbole?
Écoutez, je constate que la France est tout de même un poids lourd en Europe et sur la scène internationale, que sa parole pèse davantage que celle de la Slovénie ou de l'Irlande. Et qu'elle a réussi à entraîner derrière elle pas mal d'acteurs majeurs. Et je sais que c'était un souci majeur des responsables français de savoir s'ils allaient être suivis ou s'ils allaient se trouver seuls. Vous savez, un peu comme ce capitaine italien qui criait Avanti et se retourne, il n'y a personne derrière lui. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que la situation est ce qu'elle est. Qu'elle est épouvantable et que donc Emmanuel Macron a considéré avec raison qu'il fallait sortir des hésitations, de l'ambiguïté et prendre une position. Et cette position était la seule possible maintenant.
Et en même temps,
et c'est une bonne chose.
Et en même temps, Eli Barnavi, pour qu'on ne dise pas à quoi ça sert, il va falloir que ça nous oblige et que ça nous engage. En quoi ça nous oblige et nous engage, cette reconnaissance?
Eh bien, à l'action, vous avez parfaitement raison. Si l'on reste au niveau du déclamatoire, hein, si on proclame l'État palestinien mais que rien n'est fait pour le traduire dans les faits, on n'aura rien fait d'utile. Et ce qu'il faut, c'est maintenant agir politiquement, agir diplomatiquement, créer les conditions sur le terrain. Je proposais... dans la foulée de cette reconnaissance, par exemple, d'inviter en Europe Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ce serait déjà un geste très fort, et accompagner l'autorité palestinienne dans un effort nécessaire de réforme. Et il faut évidemment agir sur Israël, il faut cesser d'avoir peur des réactions de son gouvernement minoritaire, et il faut imposer, mais cela fait des années que je dis, et que la solution sera imposée ou ne sera pas.
Vous évoquez Mahmoud Abbas, qui n'est pas à New York, hein, d'ailleurs, pour cette Assemblée Générale, parce que, précisément, il n'a pas eu de visa pour venir. On va y aller à la fois en Israël, mais aussi à la réponse états-unienne. Une chose, quand même, encore, Elie Barnavi, vous l'avez dit récemment, dans une tribune récente, vous avez toujours dit que, effectivement, sans action, ça ne marchera pas. Vous avez surtout dit que le bruit diplomatique ne changerait rien, et qu'il faudrait y compris des sanctions. Est-ce que vous pensez toujours qu'il faudrait même que des sanctions suivent en direction d'Israël ? On a entendu des mots qui allaient dans ce sens-là de la part d'Ursula von der Leyen, on a entendu des choses venant de l'Allemagne, là encore, on n'a rien entendu de global. Est-ce que c'est l'une des réponses, à votre avis ?
Oui, c'est l'une des réponses efficaces. Vous savez, là, moi je dis toujours que l'Israël n'est pas la Corée du Nord, et même la Corée du Nord ne vit pas toute seule. C'est-à-dire là, Netanyahou vient de prononcer un discours absolument hallucinant où il préconise de transformer le pays en une espèce de super Sparte.
Absolument.
Les Israéliens ne veulent pas vivre à Sparte. Vous savez, c'est il faut imposer des sanctions très dures au gouvernement d'Israël. On commence, mais c'est trop timide. Il faut qu'il y ait un prix au démantèlement systématique de toute possibilité d'une solution au problème palestinien. Et ça passe évidemment par des mesures qui doivent faire mal, qui doivent faire mal d'abord à cette coalition incroyable. Hein. Il faut bien prendre la mesure de ce que c'est cette coalition qui est faite de fascistes, de fondamentalistes, c'est absolument hérissant. Évidemment, nous en souffrirons aussi. Moi, je vis là-bas, je suis israélien, mais c'est un prix que nous devrons payer parce que les peuples payent toujours pour la folie de leurs dirigeants. Et si on veut sauver cette solution, qui est la seule, hein, il n'y en a pas d'autre. Et si on veut éviter l'annexion de territoire et donc la transformation de cette contrée à un État unique, mmh. Un État binational, mais dominé par une seule partie. Si on veut éviter un État, du coup, d'apartheid, en fait, si on veut éviter que la situation qui prévaut aujourd'hui dans les territoires occupés soit celle qui prévaudra dans l'ensemble du pays, mais il faut agir sans faiblesse.
On est quand même à deux doigts, Elie Barnavi, aujourd'hui. Vous parlez des territoires occupés qui sont devenus plus qu'un gruyère aujourd'hui. Plus ça va, plus des colonies sont installées à Gaza. On sait bien ce qui s'y passe. On entend beaucoup les Palestiniens dire « c'est gentil de reconnaître l'État », mais vous le reconnaissez pendant que les Palestiniens, eux, sont en train de disparaître. Ce qui est une remarque assez légitime. Hein.
Oui, vous savez, les responsabilités historiques sont toujours partagées. On n'a pas le temps de refaire l'histoire ici. On n'a pas non plus le temps de partager les responsabilités. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de comprendre qu'on est dans une situation d'extrême urgence et qu'il faut agir pour que quelque chose de positif se passe enfin. L'autorité palestinienne doit se réformer. Il est évident que c'est un corps malade, hein, et corrompu, inefficace, impopulaire. Et donc la solution passe par la remise en selle de cette autorité palestinienne réformée, avec l'appui d'une coalition arabe et pourquoi pas européenne. Voilà, il y a énormément de travail à faire. Vous savez, la faute n'est pas uniquement du côté d'Israël, le problème n'est pas là. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir et c'est nous qui transformons ce territoire, comme vous le dites, en gruyère. Il faut savoir que ce n'est pas seulement une question d'emprise territoriale. Il y a en Cisjordanie, il y a des pogroms quotidiens. C'est la situation est vraiment démentiel. Et il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, ben il faut appliquer de la force. Il n'y a pas d'autre.
Vous avez, Elie Barnavi, évoqué une coalition arabe. Il y a évidemment le paramètre Trump, qui semble très en colère à certains égards contre Netanyahou, mais qui ne fait rien pour l'arrêter pour l'instant. Mais des Américains qui savent aussi que cette initiative française est aussi une initiative franco-saoudienne. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, pour le coup, ça intéresse beaucoup plus Donald Trump, et que c'est de ce côté-là que peut-être on peut trouver une solution, que c'est dans ces mains-là même qu'est la solution ?
Je pense que avoir mis les Saoudiens dans le coup était une idée de génie, parce qu'effectivement c'est l'Arabie Saoudite qui peut avoir davantage d'influence à Washington que n'importe qui d'autre, pour des raisons évidentes, hein, et qui se réduisent à la manière transactionnel dont Trump comprend les relations internationales. Il a besoin des Saoudiens. Et donc ça, c'est une très bonne chose, c'est un très bon tandem. Plus Emmanuel Macron réussira à rassembler autour de lui des forces politiques importantes dans le monde arabe, en Europe et au-delà, et plus il aura une chance de peser sur Trump. Mais Trump, vous savez, c'est une inconnue. On ne sait jamais ce qu'il dira demain, parce qu'on ne sait pas quel sera le dernier à lui murmurer dans l'oreille. C'est un électron libre, et donc c'est très difficile de bâtir une vision politique avec lui. Mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a, il faut faire avec.
Vous avez dit, Elie Barnavi, vous n'êtes pas le seul, alors que votre pays était au bord de la guerre civile, qu'il n'y avait plus rien de commun, au fond, entre la droite au pouvoir, les religieux, le reste du pays. Et pour autant, la reconnaissance de la Palestine, même la gauche israélienne, même ce camp qui autrefois était le camp de la paix, y trouve à redire aujourd'hui et pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi, à votre avis ?
Parce que les élections approchent, c'est aussi idiot et peu glorieux que cela. Moi, je sais ce que ces gens en pensent, mais ils ne le disent pas parce qu'ils s'imaginent que l'opinion n'en veut pas, qu'elle est traumatisée. Et c'est vrai, elle est traumatisée par le 7 octobre et que donc tout ce qui peut avoir pourrait faire croire que l'on récompense d'une manière quelconque les Palestiniens, ben il vaut mieux s'opposer. Mais il faut passer outre. Cela fait des années que je dis à mes amis européens, il faut cesser de s'occuper de l'opinion publique israélienne. Il faut s'occuper des dirigeants. Lorsque on a des dirigeants plus raisonnables et qui sauront tracer un chemin, l'opinion suivra comme elle a suivi au moment d'Oslo, comme elle a suivi à d'autres moments. Vous savez, la plupart des gens ne sont pas annexionnistes, ne sont pas d'extrême droite. Ils vivent dans une espèce de vase clos à cause de la guerre, à cause du problème des otages, à cause du traumatisme du 7 octobre. C'est une société qui est profondément malade. Et donc, il faut cesser de s'occuper, il faut savoir où l'on veut aller, quel est le chemin pour sauver ce peuple de l'abîme,
Ça veut dire que c'est le dirigeant qui fait le pays, Elie Barnavi, donc si demain il y avait quelqu'un d'autre à la place de Benjamin Netanyahou, c'est tout Israël en même temps qui serait capable d'avancer dans une autre direction, vous le pensez vraiment ?
Ça a toujours été le cas. La politique internationale, surtout, mais pas seulement, ne s'est jamais faite par l'opinion publique. Elle s'est faite par des dirigeants qui ont su tracer un chemin et ont su convaincre leurs compatriotes que c'était le bon chemin. Et à ce moment-là, vous verrez que tout sera différent. Moi, je me souviens très bien au moment d'Oslo, l'opinion publique israélienne était massivement d'accord pour une solution des divisions de Jérusalem, vous rendez-vous compte. À l'époque, c'était quelque chose de parfaitement envisageable. Alors évidemment, les choses ont beaucoup changé, mais elles peuvent changer de nouveau. Et surtout, il faut se demander quelle est l'alternative. Qu'est-ce que l'on fait ? C'est-à-dire, on se dit, bon, ils n'en veulent pas, ben on va laisser faire. Et si on laisse faire, ben il n'y aura plus rien à faire. Parce que même si l'historien que je suis n'aime pas la notion d'irréversibilité, il faut bien se dire qu'à partir de ce moment-là, ben sera difficile de revenir en arrière. Donc il faut agir aujourd'hui dans l'urgence. Et l'horreur à Gaza permet, comme souvent dans l'histoire, une sortie par le haut, à condition qu'on s'y attelle.
Eh bien écoutez, on vous entend, Elie Barnavi, et sortir par le haut de chaque côté. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci de votre présence dans Un jour dans le monde, Elie Barnavi. Je vous glisse au passage que demain, on est en studio avec les frères Katan, d'ailleurs, tous deux palestiniens. Puis je vous mets en tête, tiens, le podcast sorti récemment de Thomas Negarov qui s'appelle Anatomie d'une reconnaissance en Sidat. C'est bon à comprendre aussi. La suite, c'est Frédéric Saïs qui remet le monde à l'endroit. Frédéric, vous restez dans cette partie du monde.
Oui, avec la diplomatie française qui muscle son jeu sur les réseaux sociaux.
Allez, juste après ça. Miracle. Reveal yourself to me. Miracle. Your help could set me free. Miracle. From above, holy.
place. Carried on forever in me. I may never be free. Curse from down below.
Holy.
De retour dans la playlist de France Inter avec Holly. C'est Frédéric Saïs qui remet le monde à l'envers.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
On reste avec vous, Frédéric, sur la reconnaissance de la Palestine. Vous nous dites que la France s'est préparée à s'expliquer aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, si vous cherchez un secteur qui embauche en ce moment, alors pas la peine de traverser la rue, tournez-vous vers la diplomatie numérique. Bataille de récits âpres sur les réseaux sociaux autour de cette reconnaissance de l'État palestinien. La France tente de contrer l'argument israélien selon lequel il s'agit, je cite, d'un cadeau au Hamas. La diplomatie française l'avait d'ailleurs anticipé, effectivement, début septembre. Elle a créé un compte sur le réseau social X, compte baptisé French Response, réponse française, en anglais dans le texte. Il s'agit de démonter les accusations qui visent la France auprès du public mondial.
Alors, par exemple ?
Par exemple, ce compte officiel French Response est allé ferrailler avec le chef de la diplomatie américaine, rien que ça, Marco Rubio, qui suggérait dans un tweet que l'initiative d'Emmanuel Macron sur la Palestine avait encouragé le Hamas à rompre toute négociation sur les otages. Faux, écrit le compte français, qui rappelle la chronologie des faits. Alors, pas sûr que ça ait fait trembler la Maison Blanche, la riposte est encore modeste, mais il est rare de voir un tel démenti public envoyé à un pays allié, en quelque sorte une correction numérique à la limite de l'incorrection diplomatique.
Parce qu'il faut dire que jusqu'ici, la diplomatie française était quoi ? Absente des réseaux ?
Alors pas à ce point, elle était déjà présente sur les réseaux, mais de manière très institutionnelle. Des communiqués de presse longs comme le bras, écrits en français, des photos de deux ministres qui se serrent la main en souriant. Utile, bien sûr, mais pas de nature à répondre au vrai danger, celui de la déstabilisation, de la désinformation foisonnante. Cela revenait un peu à riposter avec les outils du XXe siècle au défi du XXIe.
Alors pourquoi la France est-elle passée à l'offensive dans sa diplomatie numérique ?
Alors il y a eu deux électrochocs, Fabienne. En 2020, après l'hommage à Samuel Paty, des propos d'Emmanuel Macron déformés sur les réseaux sociaux suscitent des manifestations violentes dans plusieurs pays musulmans. Autre exemple, au Burkina Faso, il y a 3 ans, attaque de l'ambassade de France après une rumeur selon laquelle un ancien dirigeant du pays s'est réfugié dans les bâtiments officiels français. Dans les deux cas, c'est faux, mais les autorités françaises ont du mal à se faire entendre, d'où la nécessité d'une présence plus massive sur les réseaux sociaux. Depuis ces événements, les ambassades françaises partout dans le monde sont d'ailleurs invitées à repérer les rumeurs virales et y répondre en ligne.
Nécessité d'une présence plus massive, comme vous dites, mais aussi moins guindée.
Oui, c'est vrai, parce qu'il faut trouver le bon ton. Alors le compte du Quai d'Orsay, French Response, s'exprime avec des émojis, des smileys, des vidéos courtes pour toucher le public le plus large. Tout ça pose la question de la pratique de la diplomatie dans le futur. Le cliché du diplomate modèle, dont les discours sont parfaitement nuancé, balancé, voire alambiqué. Ce cliché a-t-il vécu ? Désormais, le diplomate modèle sera-t-il celui qui sait produire des traits d'esprit en 240 caractères ? Mais après tout, Talleyrand lui-même avait la plume acérée. Aujourd'hui, il tweeterait sans doute sur le compte officiel French Response.
Eh ben, nous l'a bien. Merci beaucoup, Frédéric Saïs. Vous reviendrez demain. Le Le reportage ce soir est en Ukraine et croyez-moi, il vous fera réagir. Vous savez que l'Ukraine, depuis longtemps, depuis 2002, est un pays qui autorise la GPA, la gestation pour autrui. On pourrait imaginer que la guerre a stoppé les demandes de mères porteuses. Eh bien, pas du tout, figurez-vous. Des couples continuent à demander à des femmes de porter leur enfant. Vous allez rencontrer l'une de ces femmes avec le couple de New-Yorkais venu chercher le bébé. Le reste, c'est Simon Le Baron qui raconte avec Yachar Fazilov et Gilles Gallinaro.
En banlieue de Kiev, quartier de bar d'immeubles, on retrouve Annie, Steve et dans son landau,
Jean-Luc.
Hommage au personnage de la série Star Trek, Jean-Luc Picard.
And the captain is Jean-Luc Picard. He was born on August 29.
Il est né le 29 août.
Il y a aussi la grande sœur, Martina, née il y a 16 mois. Au même endroit.
It's beyond magical.
C'est plus que magique. J'ai appris à aimer à un niveau auquel je n'avais jamais aimé.
Presque tous les appartements du bâtiment sont mis à disposition par la société Biotexcom.
On l'appelle le Disneyland de ceux qui veulent devenir parents. Il y a plein d'aires de jeux, des pharmacies, des épiceries, des magasins de jouets. C'est très pratique. L'abri anti-bombe est en fait la salle à manger.
Ils ont entendu des missiles, mais seulement de loin. Alors pourquoi ces deux professeurs d'université, plus de 50 ans tous les deux, ont-ils recours à la GPA ?
Parce que nous sommes vieux et nous avons essayé longtemps, naturellement, par fécondation in vitro. Rien n'a marché.
Et pourquoi ici ?
Soyons honnêtes. Les tarifs sont plus abordables. Aux États-Unis, cela peut aller jusqu'à $250,000 sans garantie de résultat. Ici, chez Biotex, la formule la plus chère est à $69,000 et c'est le pack VIP. Nous avons pris quelque chose de moins cher, environ 50,000 euros.
Steve et Annie jurent qu'ils s'en sont assurés avant de se lancer. Les mères porteuses ici sont bien traitées et bien payées. Au siège de Biotexcom, justement, examen de routine pour Olena.
Oh,
enceinte de 34 semaines et 3 jours. À 44 ans, c'est sa troisième GPA pour un couple d'Espagnols puis deux couples d'Allemands.
Comme infirmière, je gagne un peu plus de 400 euros par mois. Comme mère porteuse, chaque grossesse me rapporte 20 000 euros.
Olena est divorcée. Sa fille, de 26 ans, est à l'armée.
Tout le monde a besoin d'aide, surtout nos soldats. Ils ont besoin de gilets pare-balles, de casques, de drones kamikazes. Je les aide.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle porte la vie pour d'autres.
Ils sont malheureux de ne pas pouvoir faire d'enfants, mais ils ont des moyens. Nous, on prend l'argent pour un service qu'on leur offre. La plupart des femmes qui viennent ici font ça pour acheter un logement ou aider leurs enfants. C'est gagnant-gagnant.
Elle sait que dans quelques semaines, ce sera un nouveau déchirement.
Une femme porte un bébé sous son cœur pendant 9 mois. Elle ressent ses coups. Elle lui parle. C'est dur, mais je suis heureuse d'apporter ce bonheur à des gens qui l'ont attendu toute leur vie.
Près de 400 enfants sortent chaque année de ce centre. Le plus important d'Ukraine. Le directeur médical Igor Pechenoa s'attend à devoir recruter en masse quand tout sera fini.
Il y a une quarantaine de centres qui font de la GPA dans le pays, peut-être plus. Quand la guerre sera terminée, que les liaisons aériennes reprendront, on aura deux fois plus de demandes et on n'aura pas assez de femmes pour être mère porteuse.
Olena, elle, dit qu'elle est quatre fois maman, qu'elle considère tous ceux qu'elle a portés comme ses enfants.
Simon Le Baron, Yachar Fazilov et Gilles Gallinaro pour le reportage. Merci beaucoup. La suite, c'est Guillaume Audat qui la déniche sous les radars.
Corruption climatique aux Philippines, manille verte de rage.
Et puis Cyril Sauvageau, la BO du Monde. Cyril qui nous emmène en Palestine à nouveau.
Et la cause palestinienne qui enflamme la scène musicale au Royaume-Uni.
Allez, à tout de suite les amis. Faisons d'abord une petite escale au Sénégal avec Ismaël Lo, Tajabone. Et si vous cherchez quel film on a fait sa BO, je vous aide.
Aidez-moi.
Tout sur ma mère, Alma Dover.
Ni ta jobon te ni ta jobon Ni ta jobon te ni ta jobon Abdu hu jambar nyari malaikala trawe esikau danu sisero momu munila degam julinga momu munila degam wonga Dano sincero Momu Munila Degam julinga Momu Munila Degam wonga Nita jobon Denita jobon Benita Jabon Wale 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 Wale
Abdou Jamba
Wale
Nyari malaika la
Wale
Chikau lay joge
Wale
Dano sincero
Wale
Munila
Wale
Degam julinga
Wale
Munila
Wale
Degam wonga
Indémodable Ismaëllo Tajabone. Il a plus de 30 ans ce titre, dites-moi. Guillaume Oda aussi.
C'est pas faux.
Был художник один.
Потому что, Катя, есть такое понятие, как совесть. И совесть.
Guillaume, cette chanson-là, cette voix qu'on entend, c'est celle d'Alla Pougacheva. C'est la chanteuse la plus connue en Russie. Elle répond à une interview, et puis elle fixe la caméra, et elle ordonne ceci à Poutine, arrêtez votre guerre.
Voilà, et cet entretien, il a été réalisé il y a une dizaine de jours, en Lettonie, où Alla Pougacheva a trouvé refuge. Elle a fui la Russie en 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine. Parce qu'elle refusait de se taire, la Pougacheva, c'est une icône en Russie. Elle chante depuis un demi-siècle, c'est à la fois France Gall, Madonna et Dalida, tout ça à la fois. Elle est adulée par les ouvriers, les intellectuels, les agriculteurs, les soldats. Tout le monde l'écoute, tout le monde l'adore. Au départ, son entretien avait été diffusé plutôt confidentiellement par un média indépendant considéré comme agent de l'étranger par le Kremlin. 11 jours plus tard, tenez-vous bien, l'interview a été vue 23 millions de fois. Elle est viralissime, mais surtout, elle perce les lignes de front et les récits officiels au Kremlin. 150 000 commentaires, dont une grande partie vient de Russie. La conscience est plus précieuse, Fabienne, que le luxe et la célébrité, dit Alla Pougacheva. Rien ne dit que la sienne entraînera la fin de la guerre, mais à Moscou, elle remue désormais au plus haut sommet de l'État.
Un manifestant dans les rues de Manille, ça gronde aux Philippines.
Oui, c'est une affaire de corruption qui a mis le feu aux poudres et transformé les rues de la capitale philippine en un théâtre de bataille rangé, jet de cailloux, gaz lacrymo, feu de poubelle. Des dizaines de policiers ont été blessés, mais surtout des dizaines de milliers de Philippins ont battu le pavé des inconnus, des célébrités, des groupes religieux, toutes les couches de la société, ulcérer les Philippins parce que ces deux dernières années, au moins 2 milliards de dollars destinés à protéger la population des inondations ont été engloutis, noyés dans des contrats fictifs de toutes sortes pendant que des familles voyaient leurs maisons balayées par les eaux. Au moins 30 élus et des hauts fonctionnaires seraient impliqués, certains proches du président Marcos Jr., le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. Ces révélations aux Philippines, elles sont vécues comme de la pure trahison dans ce pays, l'un des plus vulnérables au climat. Et ce qui se passe en ce moment n'a sans doute rien d'une agitation passagère, parce que là-bas, la corruption verte, ça n'est pas qu'un scandale administratif, c'est une menace existentielle.
Why is an independent quality media vital for a healthy society?
Pourquoi les médias indépendants et de qualité seraient-ils indispensables à la bonne santé d'une société? Et c'est vrai, Guillaume, pourquoi donc?
Eh bien, écoutez, pourquoi donc? Parce que c'est une bonne question, premièrement, et qu'elle est posée par une intelligence artificielle, et qu'elle a fait réagir un groupe d'économistes parmi les plus réputés de la planète. Ils viennent de tirer la sonnette d'alarme, le français Philippe Aguillon ou l'américain et prix Nobel Joseph Stiglitz, entre autres. Et ils alertent, je cite, sur un risque d'effondrement du journalisme de qualité, déclaration publiée par le Forum sur l'information et la démocratie. L'information fiable, recoupée, vérifiée, recueillie de première main sur le terrain ou au terme d'enquêtes qui font trembler les puissants, les groupements d'intérêts et les pouvoirs corrompus, et bien tout cela est pris en tenaille entre les intelligences artificielles d'une part qui uniformisent, voire tronquent les contenus à pas cher, avalent les revenus, et d'autre part les systèmes autoritaires qui étouffent la presse libre. Nos démocraties et l'économie mondiale sont en danger, disent et prédisent ces économistes. Comme dans les énergies vertes, les États devraient investir massivement dans le journalisme de qualité, préconisent-ils, car l'information libre et pluraliste, comme ici sur France Inter, est le charbon de la révolution numérique.
Eh ben merci beaucoup Guillaume Audin, merci, à demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait le monde en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et on va boucler la boucle au fond avec vous, Cyril. La BO du Monde est au Royaume-Uni, où la reconnaissance de la Palestine fait évidemment aussi la une. La pression de la société civile est particulièrement forte outre-Manche. Depuis des mois, les artistes britanniques se mobilisent pour Gaza, et cette mobilisation a connu un coup d'accélérateur ces derniers jours.
Avec d'abord ce concert mercredi dernier à Wembley, Ensemble pour la Palestine, un événement caritatif à l'initiative du musicien et producteur Brian Eno. Plus de 12 000 spectateurs, 1,5 million d'euros récolté pour Gaza. Au casting, des stars du cinéma comme l'acteur Benedict Cumberbatch.
On this land, there are reasons to live.
On l'entend ici lire des vers du poète palestinien Mahmoud Darwish et des artistes musicaux de premier plan, Néné Cherry, James Blake, le groupe électro Hot Chip, ou encore Damon Albarn, le leader de Blur et Gorillaz, accompagné pour l'occasion du London Arab Orchestra.
Et Cyril, au-delà de cet événement d'un soir, certains artistes vont jusqu'à couper les ponts avec Israël.
No music for genocide, pas de musique pour le génocide. C'est le nom d'une campagne portée notamment par le groupe Massive Attack, qui a décidé de bloquer la diffusion de sa musique sur les plateformes en Israël. Engagés de longue date, les musiciens de Massive Attack ont donc décidé d'aller plus loin avec ce boycott culturel inspiré des mouvements anti-apartheid visant l'Afrique du Sud. Dans leur sillage, 400 autres artistes, parmi lesquels des pointures de la scène actuelle, les groupes Mogwai, Wednesday, Primal Scream, Saul Williams. On n'est pas surpris également de découvrir dans la liste des groupes irlandais dont l'engagement pro-palestinien est de notoriété publique, à commencer par les Dublinois de Fontaines D.C.
Cyril, on s'en doute bien, l'activisme pro-palestinien de certains de ces artistes ne fait pas l'unanimité et la justice britannique s'en mêle.
Mais on a beaucoup parlé des ennuis judiciaires de NICAP, vous savez, ce groupe de rap nord-irlandais accusé d'avoir brandi un drapeau du Hezbollah en concert. Un procès est en cours, mais NICAP ne sont pas les seuls à être dans le collimateur. Le duo Bob Villan, par exemple, a fait parler de lui au dernier festival de Glastonbury en faisant reprendre en chœur au public le slogan « Mort à Tsahal », ce qui lui a valu d'être déprogrammé d'autres salles de spectacle. Le groupe fait depuis l'objet d'une enquête. Et en réponse à ce que les pro-palestiniens qualifient d'offensive judiciaire, un nouveau syndicat des artistes vient tout juste de voir le jour. Il entend venir en aide à ces musiciens qui osent, je cite, « prendre la parole pour Gaza malgré la pression des pro-israéliens ».
Et preuve que les positions se radicalisent, certains appellent désormais à boycotter les artistes accusés de soutenir Israël.
Et dans le collimateur figurent des artistes comme Radiohead, bientôt en tournée européenne. Le BDS, le mouvement de boycott d'Israël, s'en est souvent pris dans le passé au groupe de Thom Yorke, accusé de complicité avec l'État hébreu pour y avoir tout simplement donné des concerts. Mais c'est surtout le guitariste du groupe Johnny Greenwood qui est visé parce qu'il collabore régulièrement avec un artiste israélien, Doudou Tassa. Le duo a été contraint d'annuler plusieurs concerts après des menaces. Les deux acolytes ont beau se défendre, ils ont beau clamer leur amour de la musique arabe, rappeler qu'ils invitent sur leur disque des chanteuses palestiniennes, et bien ce discours d'apaisement, de réconciliation a hélas de plus en plus de mal à se faire entendre.
Merci beaucoup Cyril, à lundi prochain.